L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission quotidienne sur l'autre radio, l'AJT du local. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 26 mars, dernier jour de la semaine, en tout cas dernière émission de la semaine. Aujourd'hui, on va parler du camion du cœur et de son nouveau chalet, vous l'avez peut-être déjà vu, implanté dans le centre-ville de Laval, à destination surtout donc des SDF. Nous verrons pourquoi. On va parler aussi des portes ouvertes du CFA, bâtiment notamment, puisque ce secteur recrute. Et puis, en fin d'émission, ce sera le dernier épisode avec les comédiennes de la troupe du Kairos et on leur posera une question notamment, que pensent-elles de l'occupation des théâtres ? Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité. Les Pays de la Loire placés en préalerte maximale pour la Covid-19. Annonce hier du directeur de l'Agence régionale de santé Jean-Jacques Coiplet, avec des chiffres de l'épidémie pas bons, selon lui. Dans la région, le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre d'habitants contaminés pour 100 000, a augmenté de 19% en une semaine. En Mayenne, la hausse se fait un peu moins forte. On comptabilise 186 cas pour 100 000 habitants. Et sur les 130 classes fermées dans la région, 4 sont mayonnaises. On l'appellera désormais le musée d'Orsay Valéry Giscard d'Estaing. La résolution pour changer le nom du bâtiment était portée par le député mayennais Yannick Favennec. Elle a été adoptée hier à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Le député s'est dit fier et ému et évoque un bel hommage à l'action de l'ancien président de la République. Laval Agglomération porte désormais le label Quartier Productif. Ce nouveau dispositif vise à déployer un ensemble de services dédiés au développement économique des quartiers prioritaires. En France, 14 territoires en bénéficieront et ici à Laval, 3 quartiers sont concernés, Kellermann, Le Pavement, Charité et Les Fourches. Pour le président de Laval Agglomération, Florian Berco, cet accompagnement va permettre de diversifier l'offre de commerce et d'artisanat, permettre l'inclusion numérique et favoriser la croissance des entreprises. Géraldine Bannier interpelle le gouvernement sur le sort des professionnels de l'événementiel. Pour eux, l'année est d'ores et déjà compromise, estime la députée du Sud Mayenne, et même si des aides sont déjà octroyées, elles demeurent insuffisantes. Que prévoit le gouvernement pour les soutenir, a-t-elle interrogé. Réponse de Cédric O, secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques. Le fonds de solidarité a été renforcé. Cette politique, nous la menons pour eux et pour tous les secteurs impactés par la crise sanitaire. Fin de citation. Nouveau temps fort proposé au Théâtre de Laval ce samedi. Les occupants organisent une agora publique demain à 16h. Son thème, l'histoire des théâtres de 1830 à nos jours, par la lavalloise et ancienne professeure de lettres Dany Porcher, spécialiste du théâtre. Suivi à 17h, toujours sur le parvis du théâtre, des propositions artistiques. En foot, place au derby pour les tangos. Le Stade Lavallois accueille demain à 18h Le Mans au Stade Francis Lebasserre. Les deux équipes n'ont que 2 points d'écart au classement de national, en sachant qu'au match aller, les deux équipes se sont quittées sur un match nul. Un chalet pour les Restos du Cœur en centre-ville de Laval. Il est installé depuis quelques semaines, place du 11 novembre, tout près du manège. Les bénévoles des Camions du Cœur sont présents tous les jours du lundi au vendredi, entre 16h15 et 17h30, pour y distribuer soupe, café et surtout renouer du lien social avec les sans-abri, une population qui ne vient pas spontanément aux autres distributions des Camions du Cœur, comme l'explique une bénévole Elisabeth.
Le chalet, si vous voulez, c'est vraiment le travail d'équipe du Camion du Cœur. Nous intervenions avant sur un autre site, mais on ciblait pas la population qu'on voulait vraiment. Et on s'est dit qu'il fallait aller là où étaient les gens qui dorment dans la rue. Donc on a, bien sûr, comme tout le monde sait, ils sont souvent autour de la fontaine par ici. Et on a eu la chance que la nouvelle mairie nous soutienne en nous mettant ce chalet à disposition. Et donc, vous voyez, ça y est, ça vient petit à petit. Là. C'est une des missions des Camions du Cœur, des restos, c'est d'être au plus près des gens qui en ont besoin. Donc là, on commence doucement par une soupe, même si aujourd'hui il fait beau, peut-être ils préféreraient autre chose, mais petit à petit, on fera un repas, quoi. Ils viennent un peu. Notamment l'été, on arrivait à ce qu'ils viennent parce qu'on les mettait à manger dehors. Mais ils rentrent difficilement dans une salle et c'est difficile pour eux le contact avec les autres familles en grande précarité. Donc ils viennent plus dès qu'il fait froid, qu'on ne peut pas les mettre un peu à part dehors. Et donc c'était important d'aller vers eux. Donc c'est ça que l'on cherche. Ça se passe bien, on n'a pas encore beaucoup de monde, mais ça vient. C'est 8 à 10 soupes, mais on ne cherche pas forcément le grand nombre. Ce qu'on cherche, c'est ceux qui ont vraiment besoin, quoi, hein. Parce que ça, c'est aussi à notre but du Camion du Cœur et puis de tous les centres de distribution aussi, je pense. C'est de créer du lien social aussi. Surtout qu'il y en a certains qui ont peu de monde avec qui parler, sauf entre eux. Des fois, c'est dur entre eux, donc...
Et à terme, des repas complets pourraient être distribués en fonction des besoins. Les Restos du Cœur sont toujours à la recherche de bénévoles, et notamment avec des connaissances en logistique et en informatique. Alors si vous avez envie de les aider et que vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à les contacter. On le disait en tout début d'émission, le bâtiment a besoin de main-d'œuvre en tout cas, et recrute encore et toujours. Et le CFA, justement, à Laval, organise des portes ouvertes tous les mercredis, justement, pour inciter les jeunes à se diriger vers cette voie, ou en tout cas découvrir les métiers. On en parle d'ici quelques minutes, le temps d'écouter The Strokes avec Partners in Crime. C'est sur l'autre radio, toujours dans l'AGT du local. Et on en parlait juste avant ce petit intermède musical. Le bâtiment manque de bras, c'est vrai au niveau national, mais aussi en Mayenne. Le secteur recrute fortement. Alors, pour découvrir différents métiers et les filières qui y mènent, le centre de formation professionnelle de la Chambre de métiers et de l'artisanat en Mayenne ouvre ses portes tous les mercredis après-midi par petits groupes de 6, Covid oblige. Nous nous sommes joints justement à l'un d'entre eux.
Ah. Bien. Terminale
STDZ, santé sociale.
D'accord, donc changement d'orientation, c'est bien.
Ouais.
Trouver une entreprise pour être au CFA.
Ça j'ai déjà.
Ah ouais?
Oui.
Alors moi je suis Monsieur Bosson-Renan, je suis formateur au CFA Lurma en plomberie chauffage. Alors là on est avec un groupe de première année en plomberie, donc on est en fin de séance, donc ils sont en train de ranger. Donc il y a une activité sur le cintrage, donc c'est tordre du tube de cuivre. Alors ils viennent de parcours différents, on a du 3e de SECPA, de 3e de collège, des parcours de MFR, aussi on a des formations adultes. Voilà, un petit peu tous les parcours. Complètement, les entreprises sont en recherche et en demande d'apprenants. Et après, il faut que ça matche au niveau de l'entreprise et de la personne. Il faut que l'endroit géographique corresponde aussi. Il y a plein de critères, mais c'est des métiers, complètement en recherche de main-d'œuvre.
Je suis M. Chaudet-André, je suis chef d'entreprise en retraite et je suis formateur depuis deuxième année au CFA. Là, ici, vous avez des box. Alors, vous avez des box de première année. Vous avez les petits jeunes qui ont fait une chape aujourd'hui, plus une pose de carrelage post-CD. L'atelier, ça démarre par savoir tirer la chape, faire les repères, les guides. Et dès qu'ils ont commencé à savoir tirer les repères et les guides, on leur fait faire poser du carrelage en pose droite. Et là, vous voyez, aujourd'hui, ils sont rendus à une pose diagonale. Et après, là, ils vont démarrer vendredi la faïence en murale. Mais pour former un carreleur, il faut quand même 4 à 5 ans. Il ne faut pas oublier que quand vous formez un carreleur, il faut minimum, moi je dis, il faut 5 ans. Une entreprise maintenant, elle prend des jeunes souvent en CAP1, CAP2 et en BP. Le BP, ça demande 2 ans, ça fait 4 ans. Et quand ils sortent du BP, déjà, on a des jeunes qui savent déjà travailler. C'est-à-dire qu'ici, on leur apprend les trucs techniques. Comme tout à l'heure, ils avaient le temps, j'ai commencé à montrer comment faire des coupes en claveau. Bon, ça, c'est un niveau BP, mais bon. Ils avaient le temps, ils avaient 5 minutes, j'ai dit attendez, on va vous montrer ça. Surtout quand ils essayent de comprendre, et puis c'est pas toujours facile. La mentalité, c'est pas la même que notre période. Si par exemple les 8 ont leur CAP, là on sera heureux. Quoi. Actuellement, il faudrait à peu près 20 apprentis par an. Parce que dans les 20 apprentis, vous avez toujours une partie carrette. Moi je compte à peu près 50%. Alors on aurait au moins 10 jeunes par an, mais actuellement c'est pas le cas. Puisque là on était 10, on n'est plus que 8. Il y a même des apprentis qui ont été demandés déjà dans certaines entreprises. Il y a tellement de manque de main-d'œuvre que actuellement c'est compliqué de trouver de la main-d'œuvre. On a peut-être trop pris le métier du bâtiment pour tous ceux qui savaient pas et qui avaient du mal à l'école, allez hop, dans le bâtiment. Moi, c'était l'image que j'ai connue. Mais ça, c'est la grosse erreur. Hein. Parce qu'actuellement, dans le bâtiment, on a besoin de main-d'œuvre qualifiée. Parce qu'il y a quand même des plans. Plus ça va, plus il y a de la déco à faire. Alors, la déco, il faut savoir la faire. Il faut savoir calculer.
Alors moi je m'appelle Valentin Croissant, je suis en première année carreleur au CFA Urma. Je travaille chez les carrelages à Bonchamp-lès-Laval. Quand j'étais plus jeune, j'avais pas trop d'idées. Après je suis allé dans le bâtiment, j'ai essayé que 2 entreprises et le carrelage ça m'a plu. Bah, j'ai travaillé et puis j'ai su que c'était ça en fait. Donc voilà, maintenant ça fait plus d'un an et puis j'adore. Moi ça va nickel, impeccable. J'apprends bien parce que je suis dans une petite entreprise aussi. C'est plus facile, je pense. Après, j'ai jamais fait de grande entreprise, mais je pense que c'est plus facile les petites. Ce qui me plaît le plus, c'est du beau carreau, du grand carreau. Et la faïence, j'aime bien. Bah là, c'est la première fois que je fais une pose en diagonale. Donc, je trouve que ça va à peu près. Même ça a été validé par le professeur. Par rapport aux coupes, j'ai de plus en plus l'œil par rapport aux joints. C'est des joints plus gros, plus petits. Ouais, je vois mes efforts. C'est un avantage parce que ça nous laisse 2 ans pour apprendre le métier et puis avoir un diplôme à la fin, c'est le but, on espère. Et après, il y a le BP, il y a encore d'autres études au-dessus. Non, c'est pas du tout pareil. En entreprise, moi, personnellement, on fait beaucoup de pavillons neufs. Après, on fait du particulier aussi. Mais ici, c'est plus on a un seul box, on est toujours dans le même box. Ça change jamais, il n'y a pas de... Non, c'est pas du tout pareil. Moi, la suite, déjà finir mon CAP, c'est sûr et certain. Et puis, j'aimerais bien faire mon BP. Après, c'est à voir, parce que je me dis que ça me fait encore 3 ans. Mais après, pourquoi pas, j'aimerais bien quand même. J'ai plus la peur de me dire que je sais plus ce que je vais faire, parce qu'au final, c'est bon, j'ai trouvé ma voie et j'en suis content. Je pense que c'est pas forcément, de mon point de vue, pas forcément assez connu. Après, c'est peut-être physique, faire des efforts, voilà. Maintenant, c'est vrai que c'est assez physique, mais après, ça va, une fois qu'on est dedans, une fois qu'on est lancé, ça le fait. Hein.
Oui, bien Alexandre Ménian, formateur en maçonnerie à Lurma Mayenne. Alors on les prépare au CAP maçonnerie et au BP maçon. Les CAP maçonnerie, c'est vraiment les bases du métier. Et puis en BP, on va passer sur des choses beaucoup plus complexes et commencer à gérer un petit peu un chantier et puis des équipes. D'abord, en amont, on prépare ce qu'on va faire en atelier en technologie. Et puis ensuite, ils font leur maquette suivant un plan en atelier. Donc ça peut être du coffrage, des escaliers, de la maçonnerie de parpaing. Voilà, on a un métier très diversifié, on touche à beaucoup de matériaux, donc ça peut être plein de choses. Ah oui, alors au début, ils connaissent absolument rien. Donc on va d'abord apprendre les bases de sécurité, le positionnement pour porter des charges lourdes pour pas se faire mal au dos, parce que c'est quand même un métier physique, donc faut faire attention à ça, bien plier les genoux, garder le dos droit. Et puis petit à petit, on va développer les compétences en commençant par les fondations, les murs de soubassement, les planchers, thème par thème, compétence par compétence, pour développer un maximum de compétences pour pouvoir être le plus autonome possible sur un chantier. Ça va de la maçonnerie de pierre, maçonnerie de briques, de parpaing. Et ce qui est plaisant aussi, c'est de voir ce qu'on a réalisé, d'être fier de ce qu'on a réalisé. Donc c'est satisfaisant pour les apprentis. Il y a un petit peu de rupture parce que c'est quand même un métier difficile. Et aussi parce qu'ils ne s'attendaient peut-être pas à ce que ce soit un métier où il faut réfléchir. Certains viennent là par défaut et se rendent compte que c'est pas un métier de bourru. S'attendaient peut-être à un métier plus simple qu'ils ne pensaient. C'est un métier qui recrute. Alors les apprenants qu'on a ici, ils ont de belles perspectives devant eux, puisque ça recrute énormément, et en ressortant de l'URMA Mayenne, ils seront qualifiés. Donc les besoins plus la qualité de l'apprenti qui ressort d'ici, ça fait qu'au bout du compte, il ne pourra avoir qu'un bel avenir. Il y a toujours des besoins, on manque cruellement de maçons, ça c'est certain, donc au lieu de faire venir de la main d'œuvre étrangère, c'est mieux de former les jeunes ici. On a de tout profil, ça va de l'adulte en reconversion, à des personnes en difficulté un petit peu, un échec scolaire. On a aussi quelques étrangers qui viennent ici apprendre un métier, donc vraiment c'est ouvert à tout le monde, aux garçons, aux filles. J'ai connu quelques filles quand j'étais encore sur les chantiers, mais bon, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Ça viendra, mais ça passe par améliorer l'image du métier de maçon.
Je suis Stéphanie Jaguenaud, donc la responsable d'unité bâtiment de l'URMA Mayenne.
Si on présente un petit peu plus globalement cette unité, vous avez combien d'apprentis ?
Alors, à aujourd'hui, donc, dans le secteur bâtiment, on a 350 apprenants. Donc à la fois des apprentis en contrat d'apprentissage et à la fois aussi des personnes en formation adulte, donc sous contrat de professionnalisation ou sous d'autres formats en reconversion.
On n'est pas forcément sur le même rythme entreprise-formation selon les contrats ?
Oui, effectivement, il peut y avoir des différences. Donc globalement, chez nous, donc, l'alternance est une semaine en centre de formation et deux semaines en entreprise, dans la majorité des cas. Mais effectivement, sous certains formats, il peut y avoir donc une alternance de deux semaines CFA et une semaine en entreprise sous statut stagiaire.
L'idée, c'est vraiment de s'adapter au profil, j'imagine, des gens qui viennent vous voir.
C'est ça, exactement. C'est s'adapter au mieux. On a évidemment une fonction d'individualisation de parcours qui existe déjà depuis nombreuses années, mais qui ne fait que s'affiner, puisque on a de plus en plus de profils différents, variés, qui arrivent avec des parcours parfois même très surprenants, des gens qui peuvent avoir un diplôme même supérieur d'ingénieur, par exemple. C'est le cas encore cette année, ou comme là tout à l'heure encore, quelqu'un qui a une licence en finance. Enfin, il y a vraiment tout type de profil maintenant qui se présente à nous. Et effectivement, pour ces profils-là, il faut vraiment adapter le parcours au mieux et que ça s'articule avec aussi les apprentis.
Vous, ça vous demande forcément plus de travail, mais est-ce que finalement c'est plutôt un avantage d'avoir des profils variés, ou ça vous demande beaucoup d'adaptation ?
Alors, ça demande pas pas mal d'adaptations quand même, principalement au niveau des formateurs, puisque, je parle en enseignement professionnel par exemple, en atelier, dans un groupe, hein, il peut y avoir 10 apprentis, il peut y avoir 10 apprentis donc en 2 ans par exemple, il peut y en avoir 2 en formation 1 an, et il peut y en avoir 2 autres en formation adulte, avec une autre alternance. Donc évidemment, ça demande une différenciation pédagogique importante, mais en parallèle, hein, ça apporte aussi beaucoup de richesse d'échange, de partage d'expérience, hein, qui peuvent aussi être extrêmement moteurs au sein d'un groupe.
Quelles sont déjà tout simplement les filières qu'on peut trouver ici ?
Alors, donc on a, nous, au niveau de l'URMA Mayenne, section bâtiment, on a 11 métiers. Donc, et on a à aujourd'hui 17 diplômes et on en aura 19 à la rentrée. Donc, dans ces formations-là, donc on a 11 CAP. On a également donc 5 brevets professionnels et on a un bac pro en électricité. Et on ouvre à la rentrée une mention Zingri donc et un nouveau brevet professionnel en carrelage.
Ça aussi, c'était des diplômes en tout cas qui étaient demandés peut-être ici ou recherchés par les entreprises du département.
Oui, alors effectivement, chaque année, on étudie un petit peu ce qu'on appelle la carte des formations pour répondre au mieux aux besoins du territoire. Il est vrai que ces formations-là étaient déjà un petit peu, j'ai envie de dire, dans les tuyaux depuis quelques années. Là, aujourd'hui, on a la possibilité d'ouvrir plus facilement des formations. Du coup, on profite de ces opportunités pour le faire et également en y associant les organisations professionnelles, afin d'être certain que ça répond bien à la demande du territoire et des entreprises. Déjà, on a un lien quasi systématique avec tous nos maîtres d'apprentissage, hein, puisque ça fait partie du suivi en fait, au sein de l'URMA. Hein, chaque apprenti, bien sûr, a son maître d'apprentissage, a son prof référent, et il y a un suivi, bien sûr, tout au long de la formation, avec le maître d'apprentissage, avec des visites entreprises et autant que de besoin. En parallèle, on a aussi des échanges très réguliers avec les organisations professionnelles, donc au niveau du bâtiment, donc avec la CAPEB et la FFB. Et là, par exemple, depuis décembre, on essaie de se faire un petit peu une visio chaque mois pour justement avancer ensemble sur qu'est-ce qu'on peut mettre comme action pour le recrutement, comment eux, justement, ils peuvent sonder leurs adhérents. Et donc, pour nous, d'avoir le retour des entreprises, hein, puisqu'à eux deux, forcément, ils balayent tout le territoire. Hein. Qu'est-ce qui se fait déjà ? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble avec aussi tous les services de la Chambre des métiers, donc services de la communication, les services des développeurs, etc. Donc, on essaie de mettre tout ce petit monde en musique pour répondre au mieux, en tout cas.
On le sait, en tout cas, au niveau national, déjà, ce sont des métiers qui recrutent beaucoup, les métiers du bâtiment, où il y a encore beaucoup de besoins. C'est, j'imagine, forcément valable ici aussi ?
Oui, complètement. Ce sont des métiers qui recrutent beaucoup. Je pense qu'on en entend suffisamment parler, même d'un point de vue national. Ce sont des métiers où il n'y a pas de chômage, hein, clairement. Donc, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Donc, effectivement, ce sont des métiers aussi qui avaient un peu mauvaise réputation, si je puis dire, les années précédentes. Et là aussi, on essaie de remettre une image un peu plus réelle, hein, et normale de ces métiers-là et inciter justement les jeunes à venir dans ces métiers et à voir justement qu'aujourd'hui, travailler dans les secteurs bâtiments, c'est plus comme avant. Hein, et puis, il y a des évolutions possibles dans des niveaux supérieurs qui permettent vraiment d'avoir, j'ai envie de vous dire, un très bon job, hein, un très bon salaire et des responsabilités assez rapidement finalement. Quand je dis mauvaise image, c'est principalement lié à la pénibilité. Enfin, c'est souvent ce qu'on entend en fait, hein, dans nos métiers. C'est forcément à 50 ans, on a le dos cassé. Enfin, ce sont des métiers physiques. Hein. Aujourd'hui, il y a énormément de moyens justement, et en l'occurrence des engins de levage. Enfin, des moyens qui sont mis en place pour justement que cette pénibilité soit réduite. Après, évidemment, le métier de couvreur, par exemple, faut émettre en extérieur. La maçonnerie également. Enfin. Chaque métier garde ses spécificités, mais maintenant, il y a vraiment, en termes de sécurité en tout cas, et de santé au travail, hein, il y a vraiment énormément de choses qui sont mises en place, hein, pour que justement tout soit fait de façon à ce qu'il y ait le moins de conséquences possibles en termes en tout cas de pénibilité.
les portes ouvertes que vous organisez tous les mercredis, c'est aussi l'occasion de répondre à ces interrogations que peuvent avoir les futurs apprentis, ou en tout cas apprenants, et leurs parents.
Oui, alors c'est vrai que oui, évidemment, on a ce type de questions. Alors, c'est pas forcément les premières questions qui viennent. C'est là où c'est assez drôle. Mais oui, on rassure, bien sûr. Ça permet de voir les jeunes travailler aussi. Donc, ils voient les conditions et qu'ils voient, oui, que c'est très rassurant puisque, ces activités-là, évidemment, ça reste des activités de prime abord manuelles, mais aussi cette partie aussi intellectuelle, puisqu'on échange aussi sur les supports qui sont donnés aux jeunes pour pouvoir reproduire ou travailler sur telle ou telle activité et constater que, c'est pas plus fatigant qu'un autre métier. Enfin, j'ai envie de vous dire, voilà, qu'une infirmière aussi qui doit à certains moments porter ou être debout toute la journée. Enfin, chaque métier, forcément a ses contraintes et pas plus le bâtiment que d'autres.
C'est vraiment l'intérêt de ces portes ouvertes individualisé cette année, forcément, c'est de voir en tout cas vraiment comment ça se passe ici dans les ateliers.
Oui, exactement. Alors, c'est vrai que ce sont des portes ouvertes individualisées, comme vous dites. C'est très intéressant puisque, à la différence de portes ouvertes qui se passent, bien sûr, d'habitude en grand nombre, où on a moins le temps, là, c'est vrai qu'on creuse un petit peu plus ce type de questions et il y a un échange différent qui s'installe. Donc oui, effectivement, c'est l'occasion d'aborder d'autres sujets, sans doute, qui n'auraient peut-être pas été faits, évidemment, avec un plus grand nombre, avec moins de temps.
Les visites pour une ou plusieurs formations sont possibles tous les mercredis après-midi sur inscription au 02 43 49 88 88. On revient d'ici quelques minutes, juste après une petite pause musicale, Oh Me, Oh My de Son Little.
Another terror awaits. Yeah. And
Dans l'AJT du local, vous le savez, on a un rendez-vous récurrent chaque vendredi. C'est notre chronique autour du dispositif du service civique dans la région. Nous voyageons grâce aux différentes radios associatives qui contribuent à ce projet. Et aujourd'hui, on pose nos valises chez Unicité à Angers, où Radio G a interrogé la responsable de l'antenne angevine, un tuteur et un volontaire engagés dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.
S'engager de 6 à 12 mois, c'est ce que font les volontaires en service civique. Depuis 2010, des centaines de milliers de jeunes âgés de 16 à 25 ans, voire 30 ans pour les personnes en situation de handicap, s'engagent au sein d'associations, de fondations, de collectivités territoriales ou encore auprès de services de l'État. 10 ans après la mise en place du dispositif, qu'en pensent celles et ceux qui effectuent ou ont effectué une mission? Et quel constat du côté des structures accueillantes? Volontaires en service civique, un engagement, des réalités, une production des radios associatives en Pays de la Loire.
Qui dit service civique dit bien souvent unicité. La structure est indissociable du dispositif et pour en témoigner sur les radios associatives de la FRAP, nous accueillons Audrey Federkel, responsable d'antenne Unicité Angers, Kevin Baradaran, coordinateur de mission Anti-Gaspi et Famille en Harmonie, puis Kylian, volontaire pour la mission Anti-Gaspi. Le service civique a aujourd'hui 10 ans. Audrey, est-ce qu'Unicité n'a jamais eu pour seule autre vocation que de permettre l'expression du dispositif?
Le but d'Unicité à la base, c'est de permettre à des jeunes d'horizons complètement différents de se rencontrer et d'œuvrer pour une mission d'utilité publique. Donc ça, c'est ce qu'on fait depuis 1994, bien avant que la loi du service civique ne soit instaurée. La spécificité d'Unicité dans le champ du service civique, c'est que on ne propose des missions qu'en groupe et dans la diversité. Là où une structure peut accueillir un jeune sur une mission, nous, on accueille forcément plusieurs jeunes et on va faire en sorte de se faire rencontrer des jeunes d'horizons complètement différents, c'est-à-dire des bacs plus, des bacs moins, des jeunes en situation de handicap, voilà, etc. Et le but, c'est vraiment de créer cette diversité, cette mixité au sein des promotions de jeunes.
Les missions proposées par Unicité sont clairement orientées vers l'amélioration de la société et de la condition des jeunes aussi. Kevin, coordinateur de mission pour Famille en Harmonie et Anti-Gaspi, quel avantage tu vois pour un jeune de faire son service civique à Unicité?
Alors, pour un jeune en service civique à Unicité, comme disait Audrey, la particularité, c'est que c'est un service civique en équipe. Donc nous, on organise le service civique avec des promotions de jeunes, avec des missions de entre 16 et 25 jeunes par équipe. Autre particularité, Unicité, c'est une association qui est exclusivement dont l'objet est exclusivement le service civique. Donc on a aussi des salariés qui sont exclusivement dédiés au tutorat des jeunes en service civique. Au lieu de faire 2 jours de formation civique citoyenne, ils en font 6. Ouais. Au lieu d'avoir peut-être 1, 2 ou 3 entretiens sur l'accompagnement au projet d'avenir, ils vont avoir ces entretiens-là, mais en plus, ils vont avoir des temps collectifs, des temps de visite de structure, des temps d'échange avec la mission locale, des temps vraiment dédiés à ce projet-là, où nous, une journée par semaine, on prend du temps pour parler de ça.
Puisqu'on parle service civique à Unicité, hein, il peut être intéressant d'entendre le témoignage d'un volontaire qui fait sa mission, son volontariat justement à Unicité, Kylian. Est-ce que tu savais que le service civique pouvait se faire dans plein d'autres structures qu'à Unicité? Et si oui, pourquoi t'as opté pour cette option-là plutôt qu'une autre?
Alors oui, effectivement, j'étais au courant qu'on pouvait effectuer son service civique dans plusieurs structures. L'aspect où Unicité m'a accroché, c'est vraiment le collectif comme annoncé auparavant. Le fait de pouvoir rencontrer plein de gens différents de plein d'horizons et pouvoir se nourrir de cette différence pour avoir une plus-value pour soi-même, c'était vraiment ce qui m'a fait choisir Unicité. Et aussi la diversité des missions proposées, il y a vraiment pour tous les goûts, pour toutes les couleurs, et on trouve forcément une mission qui nous accroche et avec laquelle on a de l'intérêt. Simplement, je trouve vraiment que c'est quelque chose d'assez incroyable. J'aimerais que plus de gens le fassent. Ça, c'est une année. Moi, je le fais en césure de mes années d'études. Ça m'a apporté beaucoup et ça apporte beaucoup, surtout aux gens qui sont autour de nous. Et si tout le monde prenait une année de sa vie pour faire du volontariat, forcément, la vie serait beaucoup plus belle pour pas mal de personnes.
C'était Volontaire en service civique, un engagement, des réalités, une production des radios de la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, en partenariat avec la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de la Loire.
Rendez-vous donc mercredi prochain pour une nouvelle chronique. Et si vous en voulez plus ou que vous êtes trop impatient, vous pouvez réécouter toutes les autres sur notre site internet l'autreradio.fr. Vendredi, c'est donc le dernier épisode de notre feuilleton consacré cette semaine à la compagnie de théâtre Kairos, qui était présente la semaine dernière du coup à Château-Gontier. Trois comédiennes ont joué devant des élèves du collège Paul-Émile Victor, entre autres un spectacle intitulé « J'ai trop d'amis » qui traite du passage en sixième et des peurs qu'elles peuvent occasionner. C'était l'occasion en tout cas justement de demander aux comédiennes Suzanne, Charlotte et Marion leur point de vue sur la situation que connaît le secteur culturel en ce moment et plus particulièrement l'occupation des théâtres.
Occuper un théâtre vide, c'est très important parce que c'est pas juste l'occuper pour dire on fait grève, on arrête tout, parce que on est déjà à l'arrêt en fait. Donc c'est à un moment donné manifester l'idée qu'on existe et que c'est pas que pour nous. J'ai l'impression que le mouvement il prend aussi le pas sur tous les emplois précaires qui aujourd'hui avec le changement de l'assurance chômage sont encore plus précaires qu'avant, et c'est ce qui est dit et revendiqué je crois par les occupations. C'est des occupations qui sont pas des occupations pirates finalement pour la plupart, enfin je crois que c'est juste montrer qu'on existe et se retrouver et faire corps, faire chair ensemble, quoi.
C'est aussi le rôle de la culture de pouvoir dire qu'on n'est pas d'accord, de pouvoir lancer des débats, des réflexions. Je pense que c'est pas trop tôt même. Enfin, on a été plutôt sage jusqu'à présent. Je pense que c'est la moindre des choses de convoquer le ministère pour réfléchir ensemble à comment réouvrir, parce que je pense que c'est plus logique maintenant de rester comme ça, de rester fermé, de pas avoir de date, de pas avoir de vision de ce que va être les prochains mois, ce que vont être les prochains mois, ouais.
Là, il va falloir aussi qu'on trouve le moyen d'être ensemble. Au début du tout premier confinement, on a eu cette sensation là de, j'ai un assez bon souvenir de voir les gens qui se mettaient à chanter à leur fenêtre ou applaudir ou je dis peut-être n'importe quoi, mais je me suis dit OK. On est tous dans la merde, on va trouver des solutions ensemble. Et puis derrière, ça a fait pom, 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 et on s'est un peu cassé les dents sur le truc, et il y a eu cette latence-là. Et j'espère, quelque part, que si ça reprend, si on se réveille maintenant, on arrivera à le faire ensemble le plus possible.
Même quand on n'a pas l'habitude d'y aller, eh ben, le fait de savoir que ça existe, c'est déjà quelque chose, en fait. Il y a des villes comme ça, on m'avait dit ça, que quelqu'un qui n'osait pas rentrer dans un théâtre, qui ne se sentait pas à l'aise, que c'était trop grand, trop chic. Enfin, une vision un peu folle d'un théâtre, parce que c'est vrai que ce n'est plus comme ça du tout aujourd'hui, mais en tout cas, quelqu'un qui n'osait pas et qui m'a dit, mais je suis contente de savoir qu'il est là. Et je suis contente de passer tous les jours devant. Donc parfois, ça a aussi seulement cette valeur-là, c'est-à-dire symbolique et de rassemblement. C'est-à-dire que, voilà, on parle du cultuel, mais il y a des gens qui sont croyants qui ne vont pas à l'église, mais ils sont contents de savoir qu'il y en a une.
C'est aussi l'idée de vivre en dehors du travail. Enfin, je vois même les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude. Enfin, je pense à des personnes de ma famille, par exemple, qui travaillent la journée et puis qui, là, doivent rentrer chez elles à 18h. Et oui, bon, au début, on regarde des trucs sur les plateformes, mais au bout d'un moment, de ne pas pouvoir sortir. Donc je ne sais pas, moi c'est la sensation que j'ai qu'il va falloir qu'il se passe quelque chose après 18h aussi, quoi, à un moment ou un autre.
Ou après 19h maintenant, hein, suivant l'évolution du couvre-feu. L'ensemble des reportages donc avec les comédiennes de cette compagnie de théâtre Kairos est à réécouter également sur notre site l'autreradio.fr. C'est déjà l'heure de la rubrique initiative, et à défaut de pouvoir profiter des salles obscures, pourquoi ne pas faire venir vos personnages préférés chez vous grâce aux affiches vendues demain samedi par le cinéma de Goron. Les Tuches 3, La Planète des Singes ou La Ligne Rouge, il y en a pour tous les goûts. Le catalogue est disponible sur goron-cinéma.fr et sur place demain après-midi de 14h à 17h30. Les affiches sont disponibles en deux formats, l'une en 40 x 60 cm qui vous coûtera 2€ et une autre de 120 par 160 qui sera elle à 4€. L'opération sera renouvelée tous les derniers samedis du mois. Un appel aux dons de cuillères, roues de vélo et louches. C'est le message original passé par la ville de Cran en prévision du passage de la course cycliste Les Boucles de la Mayenne. Cran qui accueillera une arrivée d'étape le 29 mai prochain. Et pour décorer la ville et faire honneur aux cyclistes, la municipalité et plusieurs associations comptent fabriquer leurs propres créations. Mais pour ça, il leur faut des roues de vélo, des soucoupes de pots de fleurs, des accessoires de cuisine ou encore des CD. Ces objets sont à déposer demain après-midi à l'ancienne école Boris Vian. Et si vous voulez vous aussi partager vos initiatives ou messages, n'hésitez pas à appeler notre répondeur au 09 70 40 54 40 comme Anna qu'on écoute maintenant.
Bonjour, c'est Barbara et c'est moi qui fais le répondeur de l'autre radio. Si vous appelez ce numéro, c'est que vous souhaitez communiquer une annonce. Votre message est susceptible d'être diffusé sur nos ondes. N'hésitez pas à être complet dans votre message pour nos auditeurs.
Bonjour les auditeurs et les auditrices. Aujourd'hui, je vais vous parler des droits des femmes. La journée des droits des femmes est le 8 mars. Ce que les femmes n'avaient pas le droit de faire avant 1945. Les femmes n'avaient pas le droit de voter. Elles faisaient rarement de plus belles études que les hommes. Beaucoup de métiers leur étaient interdits. Elles étaient souvent à la maison pour garder les enfants. Elles cuisinaient beaucoup. Les enfants n'avaient pas le droit de porter le nom de famille de leur mère. Elles n'avaient pas le droit de porter de pantalon. Elles n'avaient pas le droit d'ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de son mari. Aujourd'hui, les femmes sont toujours jugées sur leur tenue. Elles ont moins 20% de salaire. Pour la langue française, les masculins l'emportent sur le féminin. Conclusion, la vie est injuste. J'espère que quand je serai grande, cela aura changé. Anne Roquin, 10 ans.
Merci.
09 70 40 59 40.
Alors, vous avez bien retenu, on peut toujours rappeler hein, le numéro si vous voulez vous aussi partager vos messages. Comme Anna, vous, il vous suffit donc d'appeler le 09 70 40 54 40. Et puis, on le diffusera, bien sûr, dans cette émission. C'est la fin de notre émission L'Agité du Local pour aujourd'hui, vendredi 26 mars. À suivre à l'antenne à 20h, il y a Passe-moi le thème qui vous propose ce soir une rétrospective des 3 derniers mois d'émission avec le meilleur des titres diffusés. Et nous, on se retrouve lundi en compagnie de Claire. Je vous souhaite une très bonne journée et un bon week-end.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est l'Agité du Local.